Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avions prévu d'avoir un pasteur pour me succéder. Et finalement, il a décliné notre invitation. Donc, il ira à Strasbourg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église restera sans pasteur, en tout cas. Nous n'aurons pas de pasteur à partir de septembre 2026. Nous sommes en recherche. Mais si on y repense, nous avons prié pour cela. Et son refus est aussi une réponse. Son refus est aussi une réponse à notre prière. Est-ce que vous le croyez? Oui. Je suis persuadé, convaincu, que il aura un meilleur ministère là-bas qu'ici. Hein? Et que le Seigneur nous enverra un pasteur qui sera vraiment adapté à notre Église. En attendant, nous n'aurons pas de pasteur à partir de septembre, mais le Seigneur suscitera encore d'autres serviteurs dans cette Église et il enverra aussi sûrement quelqu'un qui sera adapté pour cette Église. Et ce matin, j'ai choisi un thème sur la prière, surtout la puissance de la prière. Vous savez, dans le monde entier, tout le monde prie. Ça, vous le savez, ça. Même si on n'est pas croyant, on prie. Je connais un joueur de foot, avant d'entrer sur le terrain, il fait une prière. On lui a posé la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Mais je suis bien avec cette prière, je reste serein, je reste en paix comme ça. Il prie à quelque chose. Oui, c'est une pratique courante, la prière. Cependant, nous qui croyons à un Dieu qui a tout créé, qui a toute la puissance, lorsque nous prions à ce Dieu créateur du ciel et de la terre, il y a une force réelle, car cette prière est écoutée par notre Dieu et que cette prière donné, rendu avec foi, fait bouger quelque chose dans le monde spirituel et ensuite dans le monde visible. C'est pour ça d'ailleurs, la Bible, la parole de Dieu nous dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Il nous demande de crier à Dieu et même de prier sans cesse. Cela veut dire quoi? La prière n'est pas une option facultative. C'est une obligation, un impératif que le Seigneur nous demande de faire parce que la prière a le pouvoir de changer les situations, de renverser les obstacles et même d'ouvrir les portes fermées et aussi de libérer les captifs. Aujourd'hui, donc, nous allons découvrir comment la puissance de Dieu se manifeste à travers la prière. Mais tout d'abord, peut-être il faudrait réfléchir ce que la prière n'est pas, avant de comprendre la prière. La prière n'est pas une transaction, ou je dirais un distributeur automatique. Hop, vous faites une prière, et on pense que le Seigneur va écouter tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Certains disent... Ben, j'ai crié à Dieu, j'ai même donné des offrandes pour Dieu. Et puis, surtout, je suis venu à l'église. Donc, il devrait écouter ma prière. Non, Dieu n'est pas un commerçant à qui l'on donne 2 euros pour obtenir une baguette. Non. La prière ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Il est dit dans Matthieu 6:8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors si Dieu sait tout, alors pourquoi parler? Pourquoi prier? Il souhaite simplement parler avec son enfant et lui faire goûter à l'expérience de sa grâce à travers la prière. La prière est en réalité une respiration spirituelle. Tout comme il est important de respirer, n'est-ce pas? il est aussi important de respirer spirituellement à travers la prière. Comme je vous avais dit tout à l'heure, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. La prière possède vraiment une puissance surnaturelle, car le monde visible est dirigé par le monde invisible, et par la prière, on fait bouger le monde invisible, et il fait ouvrir des portes. J'aimerais donner un petit exemple dans les Actes chapitre 12. C'est l'histoire de Pierre. Pierre a été emprisonné. Mais juste avant, le roi Hérode a fait tuer Jacques, un des disciples de Jésus. Et ça a plu à tout le peuple. Donc, pour recevoir encore faveur du peuple, il a continué et il a arrêté Pierre. Je vous lis à partir de verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, on voit vraiment, voilà, Pierre est arrêté, l'Église intercède pour leur leader. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, donc il était lié, dormait entre deux soldats. Donc il était vraiment entouré, surveillé par des soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc on voit vraiment qu'il était impossible de s'en sortir de cette prison. Ce qui est encore incroyable ici, c'est qu'il dormait tranquillement. Comment vous auriez vécu si vous étiez arrêté, emprisonné? La première nuit, peut-être que vous aviez tremblé de peur en ayant quitté votre lit douillet, n'est-ce pas? Ou encore, souvent les gens, quand ils font des voyages, ils amènent leur oreiller parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Non? C'est pas votre cas? Sûrement certains d'entre vous devraient avoir ça dans votre voyage. Donc on a notre condition adéquate pour bien dormir. Là, il est arrêté dans une situation atroce, et il dort bien. Je me dis, c'est parce que le Seigneur lui a donné la paix intérieure. La paix intérieure. Dans Psaume 127, il est dit que le Seigneur accorde le sommeil à ceux qui l'aiment. C'est pour ça que quand je vois des gens qui s'endorment un petit peu pendant la prédication, je me dis, ah, le Seigneur l'aime vraiment. Bon. Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté, pouf, et en disant, lève-toi promptement. Voilà un ange envoyé par le Seigneur. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Voilà donc une belle histoire. Porte complètement fermée, mais à travers la prière de toute une église, toute une communauté, le Seigneur envoie un ange pour ouvrir cette porte bien fermée, gardée par les soldats, les joailliers. Voilà la prière, la puissance de la prière. Oui, Dieu répond à notre prière. Dans cet événement, ce qui est intéressant, c'est que parfois, nous, en tant qu'êtres humains, avec beaucoup de manquements, nous nous épuisons à vouloir défoncer une porte bien fermée. Non? Quand Dieu ouvre des portes, ça s'ouvre naturellement. Pas besoin de forcer, n'est-ce pas? Pierre n'a jamais forcé les portes. Le Seigneur a vraiment ouvert. Promptement, en tout cas, pour cette occasion. Mais pour nous, parfois, le Seigneur nous répond autrement que d'ouvrir cette porte, que nous, on est obstinés à ouvrir. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut la patience. Il faut aussi voir si notre prière est dans l'alignement avec la volonté de Dieu. Et puis, dans cet épisode, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'union fait la force. Ce n'est pas Pierre ici qui priait, mais ce sont ses amis, ses fidèles qui ont prié ensemble pour débloquer ce que nous pourrions jamais ouvrir, enfin, régler seul. Il y a quelques mois, vous savez qu'une fois par mois, je vais à Taverny. Et je fais une prière, enfin je fais une prédication. Et à chaque fois, dans cette église, ils ont l'habitude de prier par les anciens. Les anciens sont devant, les gens viennent. S'ils ont des sujets de prière, ils prient ensemble. Une dame vient me voir demander une prière d'intercession. Elle me dit, elle raconte sa vie. C'est une femme qui a connu beaucoup de malheurs. Elle dit aussi, j'ai un cancer de peau. Demain, je vais aller voir le médecin. Je vais sûrement être examiné et puis pour fixer une date de l'opération, je ne sais pas quoi. Elle me demande de prier pour cela. Je prie, mais c'est pas moi qui... Voilà, je fais que remettre son cas devant le Seigneur. Et c'est ce que nous faisons. Pour bien d'autres cas, nous remettons la détresse d'une personne, d'un enfant de Dieu, devant le Seigneur. Parfois, Dieu ne répond pas comme on voudrait. Souvent, pas comme on voudrait. Hein? Mais parfois, Dieu vraiment réalise des miracles. Dans la semaine même, je reçois un coup de téléphone en disant « Hé, pasteur, il n'y a rien. Tout est disparu. Tout est disparu. » Je me dis « Oh !» Alléluia. Voilà, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et je me dis, mais Seigneur, le Seigneur est puissant. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qu'il avait réalisé dans le passé, il réalise encore aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et je me rappelle encore un autre cas, je pense que je vous ai déjà raconté. Il y a longtemps, quand j'étais pasteur stagiaire, donc il y a déjà plus de 20 ans. Non, 20 ans, plus de 20 ans, plus de 20 ans. ça peut être 24, 25 ans, ouais. Voilà, donc je pars en voyage missionnaire avec des jeunes. Et puis il y a un jeune qui est souffrant. Et à ce moment-là, on était parti pour faire en Hongrie un voyage missionnaire avec des jeunes dans la rue. Et puis, il y avait nous, on dansait, on faisait des mimes, on interpellait les gens. Et puis, il y avait un pasteur qui était sur place, qui prêchait aussi en hongrois. Et on faisait ça. Les jeunes étaient très, très interpellés par ce qui se passait. Et puis, on a vu beaucoup de choses. Et puis, le soir même, un jeune, super malade, tombe malade, très fiébreux. Donc, je vais aller chercher un médicament, une doliprane, pour lui donner. Et pendant ce temps, le Seigneur me donne cette voix en disant que ce n'est pas juste une maladie physique, c'est très spirituel. Alors, je lui donne le médicament et je lui dis, écoute, le Seigneur m'a donné une parole. Ta fièvre n'est pas vraiment quelque chose de physique, mais très spirituel. Prends ce médicament d'abord, et puis donc il a pris la doliprane, et puis je vais prier pour toi. Et puis j'ai un petit peu mobilisé les jeunes. Il était peut-être 1h du matin. Et on a prié ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il réagit. Il veut me frapper, me tuer. Il me dit des gros mots. Alors que c'est un jeune tout gentil, habituellement. Et là, je vois une transformation, une possession. Ça arrive encore dans le monde aujourd'hui. On a prié fort, ensemble, tous ensemble. Et on a pu vraiment chasser le démon qui était en lui, au bout d'une heure de prière, ensemble. Je me dis, l'unité fait la force. Heureusement, je n'étais pas tout seul, j'étais aussi accompagné. J'étais un jeune pasteur stagiaire, vous savez. Donc c'était la première fois que je vis ce genre d'expérience. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu est vraiment vivant et qu'il fait des choses merveilleuses. Oui, Dieu réalise des choses incroyables, incroyables. Oui, la prière possède vraiment la puissance de renverser des situations impossibles. Je vais vous donner aussi d'autres exemples de la puissance de Dieu. J'aimerais vous donner aussi l'exemple de Anne qui était stérile à l'époque de l'Ancien Testament. Vous savez que la stérilité à l'époque de l'Ancien Testament était une honte. Pour cette femme, c'était une douleur. Même si elle recevait beaucoup d'amour de la part de son mari, ça ne le suffisait pas. Elle n'était pas consolée. Elle voulait... Parce que la stérilité à l'époque était considérée comme une malheur, maudite par le Seigneur. Et elle ne voulait pas être ainsi vue par les gens. C'était vraiment une souffrance de ne pas avoir d'enfant aussi. Elle a prié, elle a répandu vraiment son âme devant le Seigneur. Et devant ses prières immenses, sincères, authentiques, le Seigneur a écouté. Il a activé son corps, elle a pu enfanter Samuel, le grand juge. Oui, la prière peut vraiment débloquer ce qui semble mort ou stérile. Et voilà, cette prière transforme la détresse en une réussite éclatante. J'aimerais aussi vous donner un autre exemple. Élie, qui était aussi un homme comme vous et moi, a prié pour que la pluie s'arrête. Et puis, il a arrêté de pleuvoir pendant 3 ans et demi. On voit vraiment que Dieu, à travers notre prière, agit aussi. Bien sûr, Élie avait déjà reçu la bonté de Dieu. Il savait comment il fallait prier. Il connaissait sa volonté. C'est pour ça que le Seigneur a aussi influencé, ou plutôt exaucé cette prière. Vous savez que Dieu aimerait, à travers notre prière, qu'on soit participant à son projet. C'est pour ça qu'il nous invite à la prière. Il pourrait faire sans que nous prions. Il pourrait réaliser plein de choses. Mais il veut nous faire participer dans son œuvre. Oui, quand le chaos règne autour de vous, la prière vous donne l'autorité spirituelle pour vraiment réaliser des choses merveilleuses. Encore un autre exemple, Josué chapitre 10. Voilà donc que 5 rois amorites s'étaient ligués contre Gabaon, qui était un allié d'Israël. Et Josué donc intervient avec les soldats pour les protéger. Après une attaque surprise, l'armée de Josué met ses ennemis en fuite. Cependant, le terrain est montagneux. Si la nuit tombe, les ennemis pourront se cacher dans les grottes ou regagner leur ville fortifiée. Alors Josué, pour une victoire totale, il dit ceci, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, suspend ton cours sur la vallée d'Ajalon. » Qu'est-ce que vous en dites? Et il s'est vraiment arrêté le soleil. Mais c'est quelque chose d'inimaginable. Scientifiquement, c'est impossible. C'est impossible. Mais nous avons un Dieu d'impossible qui réalise des choses. Et moi, j'aurais prié à sa place, « Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Fais quelque chose. Qu'on ait une victoire assez rapide, je ne sais pas.
Mais je pense que Josué, à l'époque, avant de proclamer ce genre de choses, parce que c'était vraiment un engagement, et c'est quand même la réputation de Dieu était en jeu. Et il dit ceci vraiment avec foi, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. » Je pense qu'il avait reçu déjà une réponse. Et il a déjà proclamé ce qu'il avait reçu comme réponse. Il était, je pense, sa demande était alignée avec le plan de Dieu. Et je pense que c'est très important que notre prière soit alignée avec le plan de Dieu. Oui, Dieu est le maître de l'horloge. Et ce qui est encore intéressant ici, c'est que le miracle de Dieu ne dispose pas Josué de combattre. Voilà, le soleil s'est arrêté, mais l'armée doit continuer à marcher et à se battre contre l'ennemi. Dieu fait l'impossible, donc arrêter le soleil, mais Josué doit faire le possible, c'est-à-dire poursuivre le combat. Le Seigneur fait des choses, mais nous aussi, on doit faire notre part. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Amen. Oui, dans Jérémie 33, 3, en fait, là, ce matin, j'ai choisi une prédication à thème. En général, je n'aime pas faire ça. Je préfère apporter un message, une prédication textuelle. Et là, j'ai un peu changé ma manière de faire. Parfois, c'est bien de changer un peu notre manière de faire. Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne sais pas. Quand j'ai lu cette prière, enfin ce verset, je me suis dit, ah oui, en priant à Dieu, Dieu ne répond. Et puis, dans cette réponse, Dieu nous annonce de grandes choses, parfois des choses cachées qu'on ne savait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries pour que, par exemple, pour que ton ennemi disparaisse, bah Dieu, à travers notre prière, peut nous révéler comment cet ennemi doit être aimé par toi pour désamorcer le conflit. Dieu change notre prière. Parfois, tu peux prier aussi pour qu'une porte s'ouvre, mais Dieu te révèle que cette porte fermée était fermée pour ta propre protection contre un danger futur. Ou peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Voilà. La prière est puissante parce qu'elle déplace le curseur de ta vision limitée vers la vision de Dieu, vers l'omniscience de Dieu. Prier, ce n'est pas juste demander, mais c'est recevoir aussi une vision claire, une claire de la part de Dieu. J'aimerais terminer avec l'histoire d'un roi. Dans l'Ancien Testament, qui est le plus mauvais roi? On a vu David, le roi idéal. Le plus mauvais roi, c'est Akab. Akab. Le plus mauvais roi, c'est Akab. Et la Bible nous dit aussi. Et en lisant tous ces événements que Élie a pu réaliser, j'ai lu des événements assez intéressants, comme vous savez, Élie défie les prophètes de Baal et des prophètes de Astarté, donc un contre 850 prophètes, hein, et il a pu vraiment les vaincre. Après cet événement, voilà, on voit vraiment la puissance de Dieu réalisée à travers Élie. Mais tout de suite après, voilà, il vit un moment très difficile, une sorte de dépression à cause d'une menace de Jézabel. Donc il s'enfuit, il est épuisé, découragé dans le désert, et puis le Seigneur le console. Là, voilà, c'est ça que je voulais en fait vous parler. Mais finalement, en continuant ma lecture, j'avais oublié cet épisode où Akab avait pris un terrain juste à côté. Il a vu une terre à côté de son palais, un terre qui appartenait à Naboth, et il s'est dit, je veux l'avoir. Il a médité jour et nuit pour l'avoir. Et puis, il a voulu essayer d'acheter ce terrain. Mais il a dit, mais non, je ne peux pas. Ça appartient à mes ancêtres, je ne peux pas vous vendre. Et Jézabel, comment on dit ça, Jézabel? Comment on pourrait la décrire? La femme qui manigance plein de choses derrière. Enfin bref. Manipulatrice. Elle a fait en sorte pour qu'il y ait des mauvais témoins et puis elle le fait tuer. Et finalement, Akab récupère cette terre pour lui. Il a convoité, il a pu l'obtenir. Et c'est à ce moment-là, dans ma lecture, j'ai été surpris par les prophéties d'Élie. Élie vient auprès d'Akab, qui a pris la vigne de Naboth, après que Jézabel a fait tuer Naboth. Élie annonce un jugement de Dieu contre Akab et sa maison. Il dit, les chiens lécheront le sang d'Akab. La dynastie d'Akab sera détruite. Jézabel mourra aussi violemment. C'est assez fort comme condamnation, comme prophétie. Et il le dit courageusement, cette prophétie, devant Akab, alors que quelques temps avant, il s'enfuyait de Akab et de Jézabel à cause de... Enfin, il avait peur pour sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que Akab, après avoir entendu la sentence de mort prononcée par le prophète Élie, il a un comportement bizarre. Il déchire ses vêtements et se couvre d'un sac, symbole de deuil et de regret. Il refuse de se nourrir pour montrer que son âme est affligée, après avoir entendu la prophétie. J'avais lu déjà dans le passé, mais j'ai jamais fait attention. En fait, et puis, non seulement il jeûnait, mais aussi il marchait doucement. C'est l'image d'un homme brisé, qui a perdu son arrogance royale. Et Dieu dit à Élie, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ?» Oh, le roi idolâtre, le roi qui a institutionnalisé l'idolâtrie dans son pays. Il a même créé des temples en honneur de Baal et d'Astarté à cause de sa femme Jézabel. Et là, après avoir entendu une sentence, il s'est humilié et donc c'est une sorte de prière. Et Dieu a vu comment Akab s'est humilié. Et donc il dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Incroyable. Le plus mauvais roi de l'Ancien Testament. Il prie, il s'humilie, et Dieu écoute. Écoute. Bien sûr, Akab va mourir le chapitre suivant, mais il ne verrait pas... Oui, il va mourir. Parce qu'il ne s'est pas complètement transformé. Il n'a pas changé de vie après. Mais il n'a pas vu toute sa dynastie anéantir. Vous savez, il avait 70 enfants. Hein. Et il les a pas vus mourir. Bien sûr, ils vont mourir après. Enfin, bref. Même si Akab était le pire des rois, Dieu a réagi à son humilité. Dieu cherche toujours une occasion de faire grâce. Donc, bien que l'humiliation d'Akab ait été incomplète, puisque voilà, il n'a pas changé de vie complètement, cette humilité était sincère sur le moment et Dieu a répondu à sa prière. Donc, Si la prière a pu ouvrir une porte à un homme comme Achab, le plus mauvais roi, alors à combien plus forte raison Dieu n'écouterait-il pas votre prière, ma prière, notre prière? Dieu peut ouvrir une porte à n'importe qui aujourd'hui. Aucun péché, aucun passé n'est trop lourd pour revenir auprès de Dieu et pour que votre prière soit exaucée. Amen. J'aimerais conclure. Oui, la prière n'est pas un simple rituel religieux, nous avons vu tout à l'heure pendant l'introduction, ni une formule magique destinée à obtenir ce que nous voulons. La prière est une relation vivante avec Dieu, une respiration spirituelle qui relie notre faiblesse à sa toute-puissance. À travers les exemples de Pierre, Anne, Élie, Josué, je voulais encore parler de Daniel, mais enfin bref, il y a tellement de personnages dans la Bible où nous avons pu voir la puissance de Dieu qui se sont manifestés à travers leur prière. Nous voyons que vraiment la prière peut ouvrir des portes impossibles. La prière peut renverser des situations désespérées. La prière peut révéler même des stratégies de Dieu. La prière peut aussi accomplir ce qui semble inaccessible. Mais la plus grande force de la prière se trouve elle-même dans l'humilité. Achab, malgré sa méchanceté, a trouvé un moment de grâce lorsqu'il s'est humilié devant Dieu. Et c'est ce que nous devrions faire. Cela nous montre que Dieu regarde au cœur et qu'il demeure, qu'il est prêt à écouter aussi celui qui revient sincèrement à lui. Aujourd'hui, donc, ne restons pas devant vos murs en pensant qu'il est trop grand. Ne laissez pas non plus la peur, ni le passé, ni les échecs vous empêcher de prier. Mais approchons-nous de Dieu avec foi, avec persévérance, avec humilité, car lorsque le peuple de Dieu prie, le ciel agit, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et les vies sont transformées. La prière change les circonstances, mais surtout, elle nous rapproche de Dieu qui a le pouvoir de tout changer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière.